Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc, heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Pour la présidentielle, on donne la parole aux associations. Cette semaine, place à la jeunesse avec la sauvegarde 01 et le MRJC.
Et on vous emmène dans les coulisses de la nouvelle exposition du monastère royal de Brou, Amour, guerre et beauté.
Reportage au lycée Gabriel Voisin où les élèves et les formateurs ont proposé leur aide pour trier les colis à destination de l'Ukraine.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourque. En bref.
C'est bientôt l'élection présidentielle, devenez assesseur.
La ville de Bourg-en-Bresse cherche des personnes disponibles les 10 et 24 avril prochains pour être assesseur. C'est du bénévolat. Son rôle est de vérifier l'identité de la personne, la fait signer et tamponne sa carte d'électeur. Alors si vous êtes intéressé et inscrit sur les listes électorales, vous pouvez appeler la mairie au 04 74 45 70 79.
La mairie de Bourg-en-Bresse sort un nouveau guide pour partager l'espace public.
Et ce guide de 24 pages donne des informations sur la signification des panneaux que vous pouvez voir en ville. Il rappelle aussi les différentes réglementations et les amendes qui peuvent être données si on ne les respecte pas. Par exemple, une voiture qui stationne sur une piste cyclable ou un vélo qui franchit un feu rouge, c'est une amende de 135 euros. Alors vous pouvez retrouver ce guide en mairie ou en ligne sur le site de la mairie de Bourg-en-Bresse, bourg-en-bresse.fr.
Le mois de mars, c'est le mois du vrac.
Limiter les emballages, c'est l'objectif du vrac. Des épiceries ouvrent un peu partout en France avec ce modèle. Et c'est le cas à Bourg-en-Bresse. Une épicerie vrac a ouvert en plein centre. Vous pouvez la retrouver sur Facebook sous le nom GK Pensée Vrac. Et elle est située rue des Bons Enfants à Bourg-en-Bresse. Et la première épicerie vrac de Bourg, c'est Le Petit Grain. Elle est située boulevard Saint-Nicolas. Vous pouvez retrouver notre reportage sur le vrac dans l'émission Vous avez la solution. Du 27 janvier 2021. C'est en podcast sur le site radio-b.fr, rubrique info et vous avez la solution.
Radio B et le Centre de Culture Scientifique de l'Ain vous invitent à une conférence ce mardi.
Une scientifique et un journaliste partageront les coulisses de leur métier. Ils nous expliqueront comment le changement climatique est traité dans les médias. C'est ce mardi 29 mars à 18h30 à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. C'est gratuit et ouvert à tous. Et les moments clés de cette conférence seront diffusés le mercredi 13 avril à 18h sur le 90 FM et sur radio-b.fr.
Une nouvelle exposition au monastère royal de Brou.
Amour, guerre et beauté, c'est son nom. Elle raconte les histoires de guerre et d'amour des ducs de Bourgogne aux Habsbourg, de Jean sans peur à Charles Quint, une période qui dure entre le début du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Les œuvres qui retracent la période sont elles du XIXe siècle. Magali Bria-Philippe, conservatrice au monastère royal de Brou, nous décrit un de ses tableaux.
Nous sommes ici à l'exposition Amour, guerre et beauté, la nouvelle exposition au monastère de Brou. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette exposition?
Alors, cette exposition raconte l'épopée des ducs de Bourgogne jusqu'aux Habsbourg, avec de nombreux rebondissements, comme l'indique son titre. C'est une histoire méconnue du public français, mais qui est passionnante si on la replace aussi dans le contexte européen du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Donc là, on est devant un tableau particulier. Vous allez nous raconter l'histoire qui se cache derrière le tableau. Est-ce que vous pouvez déjà nous le décrire?
Donc nous sommes devant un tableau de grande dimension avec un style très lisse, très minutieux du peintre lyonnais Pierre Révoil qui date de 1810 et qui représente François Ier et Charles Quint, les deux ennemis héréditaires. Alors Charles Quint avait fait François Ier prisonnier suite à sa défaite à Pavie en 1525 et puis il s'était réconcilié quelques années après, notamment grâce à la paix des dames orchestrée par Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche en 1529. Et puis, une dizaine d'années après, Charles Quint doit monter d'Espagne aux Pays-Bas pour aller mater une révolte à Gand et demande l'autorisation au roi de France de traverser ses territoires. Alors la maîtresse de François Ier l'encourage à se venger de son rival et à le capturer à son tour. Charles Quint, informé de cette hostilité, laisse tomber un anneau d'or à l'attention justement de la duchesse d'Étampes, la maîtresse de François Ier, pour l'amadouer. Elle propose de lui rendre, mais il refuse, lui demandant de le garder par amour de lui. Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir que sur la partie droite du tableau, on a le grand François Ier qui se tourne vers son bouffon, Triboulet, qui a dressé une liste des fous du royaume. Et le premier de ces fous, c'est bien Charles Quint, qui ose s'aventurer sur les territoires de son ennemi de toujours.
Comment cette exposition a été créée? Vous avez été en lien donc avec un musée belge, comment ça s'est passé?
Alors cette exposition est une coproduction avec le musée Rolf van Boussleden de Malines, une ville en Belgique, en Flandre, la ville où Marguerite d'Autriche résidait et d'où elle dirigeait les Pays-Bas.
Donc qu'est-ce que vous attendez un peu que le public retienne de cette exposition, découvre ?
Alors je pense que cette exposition, c'est un petit peu comme la guerre des trônes. Ça permet de découvrir des histoires méconnues, mais passionnantes, avec beaucoup de rebondissements, avec de l'amour, des conflits, des trahisons, mais aussi des beautés, de quoi s'émerveiller.
C'était Magali Bria-Philippe, conservatrice au monastère de Brou. Et vous pouvez retrouver l'exposition au rez-de-chaussée du bâtiment jusqu'au 26 juin 2022.
Réouverture du musée du Buget, Valromey, le 1er avril.
Situé à Lochieux, le musée accueille une nouvelle exposition temporaire. Elle présente Charles Maché, sculpteur et peintre de lin. Le musée du Buget, Valromey est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et le mardi.
Un atelier cuisine au domaine des saveurs, les Planons.
L'événement a lieu tous les premiers dimanches du mois. En allant visiter le domaine des Planons, vous pourrez aussi assister à un atelier cuisine. Le 3 avril, c'est la chef du restaurant L'Accent Latino, situé à Bourg-en-Bresse, qui va faire un dessert avec des produits d'Amérique latine. Il y a deux sessions, une de 14h30 à 15h30 et une de 16h30 à 17h30. Et c'est le dimanche 3 avril, 10€ l'entrée, avec l'entrée du musée comprise. Le domaine des Planons est situé à Saint-Cyr-sur-Menton. Réservation à l'adresse domaine saveur avec un S at 1.fr.
Musicien de lin, c'est le moment de vous inscrire pour la fête de la musique.
La ville de Bourg-en-Bresse veut faire appel aux talents du département pour animer les rues le 21 juin prochain. Si vous voulez participer avec votre groupe ou en solo à cette fête de la musique, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 avril. C'est sur le site de la ville www.bourg-en-bresse.fr.
Deux minutes, une actu.
Et jusqu'à la présidentielle, on vous décortique les programmes des candidats et candidates sur un thème précis. Et aujourd'hui, Inès, on parle de l'accès à la santé.
Et l'Ain est un département très touché par le manque de médecins, que ce soit en campagne ou en ville. 15% des habitants du territoire n'ont pas de médecin traitant. Alors nous allons voir ce que proposent les candidates et les candidats sur ce sujet. On commence avec Nathalie Artaud qui veut rouvrir les établissements de santé de proximité qui ont été fermés, comme les maternités, les cliniques et les centres de santé. Elle veut aussi aider les médecins et pharmaciens à s'installer dans les endroits où il y en a besoin avec une aide financière. Jean-Luc Mélenchon veut, lui, que chaque Française et Français puisse avoir accès à un centre de santé à moins de 30 minutes de route de chez eux. Il veut recruter plus de médecins en supprimant notamment le numerus clausus. Et il veut aussi rouvrir les services de santé qui ont été fermés. Fabien Roussel veut limiter le droit à l'installation dans les zones médicalement denses et développer massivement les centres de santé. Yannick Jadot veut également limiter l'installation des médecins dans les zones déjà pourvues et il veut aussi que la dernière année d'internat et les deux premières années d'exercice soient obligatoirement faites dans une zone à faible densité médicale. Anne Hidalgo veut, elle, créer un statut de médecin assistant qui assure aux internes une rémunération doublée pour aller dans les territoires qui manquent de médecins. Elle veut aussi pouvoir accueillir plus d'étudiants de médecine dans les facs. Valérie Pécresse veut créer une dotation par région pour ajuster la rémunération des professionnels de santé dans les zones sous tension. Elle veut aussi envoyer les jeunes étudiants en quatrième année de médecine dans les zones sous tension et elle veut que chaque Français ait un accès aux soins à moins de 30 minutes de chez eux. Jean Lassalle veut financer les études pour les médecins qui veulent rester 6 ans dans une zone rurale en manque. Il veut aussi que l'accès aux hôpitaux soit possible à moins de 40 minutes de chaque habitant. Nicolas Dupont-Aignan veut ouvrir un nouvel établissement de santé par département. Il veut créer une bourse pour les étudiants en médecine en échange d'une installation pendant 5 ans dans une zone qui manque de médecins. Il veut aussi doubler le personnel en médecine scolaire. Marine Le Pen veut développer la télémédecine, augmenter le nombre de maisons de santé et aussi ouvrir plus de places dans les facultés de médecine. Et Éric Zemmour, pour finir, veut recruter 1000 médecins salariés dans les zones rurales qui manquent de médecins.
Merci Inès.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
Parce que c'est notre projet !
Les assos parlent aux candidats.
Pas toujours en âge de voter, les jeunes sont parfois mis de côté pendant les débats politiques. Alors cette semaine, nous accueillons deux associations dédiées à la jeunesse. Et on commence avec la Sauvegarde 01.
Bonjour, je m'appelle Alain Bouchon, je suis directeur général de la Sauvegarde 01 et par ailleurs administrateur de la Fédération des associations de sauvegarde de l'enfance. Alors la Sauvegarde 01 ne s'appelait pas comme ça au départ, mais c'est une association qui fête cette année ses 80 ans, donc qui a quand même une longue histoire, et qui a vu ses actions démarrer autour de tout ce qui correspondait à la protection de l'enfance, mais sous mandat, c'est-à-dire une intervention sous mandat de juge des enfants au travers de ce qu'on appelle l'action éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire l'accompagnement de familles pour protéger des enfants. Ensuite, il y a eu un élargissement sur la prévention spécialisée dans les années 70-80. La prévention spécialisée, ce sont ce qu'on appelle les éducateurs de rue qui sont sur différents sites dans le département. Et puis, par la suite, nous avons largement élargi nos champs d'action puisqu'aujourd'hui, nous intervenons aussi bien auprès de femmes et femmes avec enfants, femmes en difficulté, femmes victimes de violences, au travers de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, de l'accueil de jeunes 18-25 ans, toujours en CHRS, de l'accueil de mineurs non accompagnés, où on gère au total la prise en charge de 176 jeunes EMENA, et puis des actions aussi auprès d'adultes migrants, des actions de prévention de la radicalisation, des actions de prévention de la récidive, voilà, tout un champ assez large d'activités.
Donc quelles sont les grosses difficultés que rencontre votre association, la Sauvegarde ?
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout notre secteur, pas seulement la Sauvegarde, fait face à une difficulté majeure qui est celle de l'attractivité des métiers du secteur social. Nous avons des problèmes de recrutement, mais comme plein d'autres associations dans notre secteur, nous ne sommes pas les seuls. Toutefois, ça impacte effectivement la prise en charge des jeunes, des enfants, des familles que l'on a à prendre en charge justement. Régulièrement, nous avons des recrutements en cours sur tout un tas de métiers, que ce soit d'ailleurs les métiers de travailleurs sociaux, comme des métiers qui sont autour de la prise en charge, qui peuvent être des maîtresses de maison, etc.
Et donc qu'est-ce que le dernier quinquennat a pu changer donc, pour votre association en bien ou en mal ?
Le dernier quinquennat a été marqué pour nos associations dans la protection de l'enfance par la création d'un secrétariat d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. La mise en place, ça a été mis en place pendant le précédent quinquennat, mais en tout cas le travail a continué du Conseil national de la protection de l'enfance, qui est une instance dont je suis membre, qui permet de conseiller le gouvernement. En tout cas, il fait appel à nous avant que de faire paraître un certain nombre de textes. Ce Conseil national de la protection de l'enfance est composé de gens venant d'origines très diverses, qui vont depuis des directions de maisons d'enfants, des représentants de départements, des professionnels, etc. Les grosses missions, c'est à chaque fois que le gouvernement souhaite mettre en place une mesure concernant l'enfance, il y a consultation de ce Conseil national qui émet un avis sur les différents textes à paraître. Alors, ça n'est qu'un avis. Nous faisons aussi des recommandations sur un certain nombre de choses. Alors, les recommandations ne sont pas toujours suivies, mais en tous les cas, il y a... mais ça avait démarré lors du précédent quinquennat, hein, je le précise. Le quinquennat actuel a continué la mise en place et nous sommes dans une période charnière où il y a un renouvellement des membres et la réflexion sur une structure plus globale, plus transversale autour de ces questions de protection de l'enfance.
Qu'est-ce que vous attendez donc de la nouvelle présidence ?
Ce qu'on attend de la nouvelle présidence, quand je dis ce qu'on attend, c'est plutôt la fédération hein, qui regroupe tout un tas d'associations qui œuvrent dans la protection de l'enfance. Ça serait d'avoir cette fois un ministre de l'enfance et de la jeunesse. Parce que le secrétaire d'État actuel, malgré tout le travail qui peut être mené et la grande amélioration qu'on a pu voir par rapport à tous les autres quinquennats où ça n'existait pas, il en reste pas moins sous l'autorité du ministre de la Santé. Ça veut dire que pour nous, l'enfance, la jeunesse doit être prise en compte de façon globale. Et il serait important d'avoir un ministre de l'enfance et de la jeunesse qui ait des moyens financiers, qui ait une transversalité sur la prise en charge des enfants, des jeunes et puis aussi de leur environnement, de leur famille, etc.
Et est-ce qu'avec ces moyens, vous voulez viser particulièrement des mesures que vous avez en tête ?
Dans les mesures urgentissimes, il y a, mais ça a été annoncé pour l'instant par le Premier ministre, on ne sait pas encore exactement comment ça va se mettre en place. Mais il y a la revalorisation des métiers du secteur social de manière à améliorer cette attractivité. Parce que sans professionnels formés et puis tous les autres métiers qui sont autour de la prise en charge des jeunes, hein, il n'y a pas que les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les CESF, etc. Il y a aussi tous les autres métiers qui sont autour de l'enfant, autour du jeune, qui ont perdu de leur attractivité et qu'il faut impérativement revaloriser si on ne veut pas se retrouver dans une situation où on ne pourra plus prendre en charge ces jeunes. Et ça arrive parfois. Moi, j'ai des collègues sur d'autres départements. Heureusement, ça n'est pas arrivé sur notre département, mais sur d'autres départements, j'ai des collègues qui ont dû fermer carrément des maisons d'enfants à caractère social faute du personnel suffisant, diminuer la capacité d'accueil de leur maison d'enfants à caractère social. Ça veut dire des enfants qui, à un moment donné, devaient être en établissement. En tout cas, les juges pour enfants avaient estimé dans l'analyse qu'ils ne pouvaient pas rester au sein de leur famille. Ils devaient aller au moins pour un temps dans une maison d'enfants à caractère social. Ces mesures ne peuvent pas être mises en place parce que aujourd'hui, même si on a les moyens financiers qui nous sont donnés par le département, on n'a pas toujours le personnel à mettre en face. Alors, ce n'est pas la situation dans le département de l'Ain, mais ça pourrait effectivement arriver. Donc, nécessité très rapide de revaloriser les métiers du secteur social.
Et comment vous et votre association, vous arrivez à faire un peu du lobbying auprès des élus pour que vous soyez entendus? Comment vous faites?
Alors, le lobbying, il se fait au travers de la fédération. Il y a deux leviers, si je puis dire. Il y a un premier levier qui est la CNAP, la Fédération des associations de protection de l'enfance, qui, elle, intervient sur la question du métier, qui fait des plaidoyers. Et puis il y a les syndicats employeurs qui eux négocient sur les questions de rémunération.
Et donc, si on devait résumer un peu tout ça, est-ce que vous trouvez que la jeunesse, l'enfance, c'est pris de plus en plus en compte par le gouvernement ou c'est encore un peu mis de côté quand même ?
C'est pris en compte par le gouvernement et par tous les gouvernements. Ils ont toujours pris en compte l'enfance et la jeunesse. Le problème, c'est d'arriver à une prise en compte globale de l'enfant au centre d'un dispositif et que ça soit beaucoup plus transversal. C'est-à-dire que c'est pas l'enfant tout seul et des règles autour de l'enfant tout seul. C'est des règles et des moyens pour et des dispositifs pour une prise en charge globale de l'enfant dans sa famille, de l'enfant en dehors. Aujourd'hui, en France, on a 320 000 enfants c'est pas non plus énorme par rapport à la population d'un pays de plus de 60 millions d'habitants, mais on a 320 000 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale, ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'ils sont en situation de difficulté ou de danger. On s'aperçoit que parmi les personnes en grande difficulté, les adultes en grande difficulté, plus de 70% des adultes en grande difficulté sont passés un jour par l'aide sociale à l'enfance. Ils n'ont pas le soutien familial que peuvent avoir d'autres enfants. Donc il y a nécessité d'avoir un regard beaucoup plus attentif et d'avoir des dispositifs beaucoup plus pertinents autour de ces jeunes qui, à un moment donné, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils ont eu des familles défaillantes. Voilà.
C'était Alain Bouchon, directeur général de la Sauvegarde 01. Autre association, le MRJC, le Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes. On écoute Sarah Morel, animatrice permanente de l'association.
Le MRJC, c'est une association d'éducation populaire qui est gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans en milieu rural. Donc on accompagne des jeunes à prendre des responsabilités associatives. On organise des séjours éducatifs pour des jeunes, donc des camps l'été ou des week-ends pendant l'année, où ils peuvent aussi échanger sur une thématique, un sujet de société. Et on organise aussi des formations à l'animation. Et on accompagne des jeunes à monter des projets pour animer les territoires ruraux. Il y a des valeurs de vivre ensemble, de faire en collectif et aussi de pouvoir exercer leur pouvoir d'agir, de prendre des responsabilités. Et du coup, il y a des valeurs de solidarité, de partage.
Est-ce que votre association rencontre des difficultés donc pour son fonctionnement, par exemple?
C'est vrai que du coup, on a peu de moyens financiers et du coup, pour accompagner les jeunes, ce n'est pas toujours évident au quotidien dans leurs projets ou même dans le fonctionnement du coup associatif. Il y a des problématiques de mobilité chez les jeunes en milieu rural et aussi il y a très peu d'animation qui se passe dans les villages, même si je pense qu'il y en a de plus en plus et je l'espère. Et favoriser davantage aussi l'accès à la culture pour les milieux ruraux.
Et vous êtes combien de salariés au MRJC ?
On est 3 salariés. Moi, je suis sur le département de l'Ain. J'ai une collègue qui est sur la Bresse et un autre collègue qui est sur un tiers-lieu dans le Revermont. On estime toucher à peu près 200 jeunes par an. Donc, ça comprend les jeunes qui viennent en séjour, ça comprend les jeunes qui s'engagent très régulièrement ou ceux qui viennent juste une fois dans l'année.
Ces jeunes, c'est quoi qui les anime, c'est quel profil, qu'est-ce que vous retrouvez ?
Eh ben, on a remarqué qu'il y a de plus en plus souvent des jeunes qui s'intéressent aux questions écologiques, aussi en lien avec l'égalité entre les hommes et les femmes, à combattre un petit peu les rapports de domination. Après, c'est plutôt des jeunes qui du coup sont engagés dans l'association, mais qui sont déjà un peu sensibilisés à ça et à la politique et à la vie associative.
Qu'est-ce que vous attendez donc au niveau de la jeunesse pour le département de l'Ain ?
Déjà, on aimerait bien que la politique jeunesse soit une compétence obligatoire à un échelon et aussi ne pas oublier dans les jeunesses les 20-30 ans parce que du coup, les plus 18 ans sont souvent un peu oubliés. Et on aimerait aussi favoriser les espaces d'expression pour les jeunes pour qu'ils puissent aussi exercer le pouvoir d'agir, avoir une place pour pouvoir s'exprimer. Et on aimerait bien aussi plus de soutien financier et de la valorisation aussi des associations qui accompagnent les jeunes pour le fonctionnement de l'association et de favoriser du coup l'engagement associatif et l'engagement sur le territoire des jeunes. Et avoir aussi une politique jeunesse qui soutienne déjà ce qui a été mis en place, par exemple les colos d'été qui permettent de vivre des moments collectifs pendant 15 jours, de favoriser l'autonomie et sans forcément réinventer de nouvelles choses, mais partir de ce qui existe déjà. On a remarqué, nous aussi, qu'il y a de plus en plus de jeunes du MRJC qui sont très portés par l'agriculture et par l'alimentation et l'écologie. Et du coup, on souhaiterait des politiques engagées dans le soutien à une agriculture paysanne et locale et en faveur de la transition écologique dans cette période où on vit un peu, où les jeunes peuvent vivre un petit peu d'éco-anxiété et ils ont du mal aussi à se projeter sur les années à venir.
Et donc justement pour cette thématique donc de la présidentielle, vous avez fait deux événements. Donc un événement pour plutôt les plus âgés, les jeunes plus âgés, et un événement pour les jeunes plus jeunes. Pourquoi vous voulez parler de la présidentielle aux jeunes en fait ?
Tout simplement pour qu'ils aient aussi un espace d'expression pour donner leur avis, mais aussi pour découvrir un petit peu les programmes électoraux, les enjeux des élections présidentielles, la place du vote aussi actuellement. Donc c'est un aspect de découverte et en même temps de pouvoir avoir une parole en tant que jeune. Certains ne votent pas forcément, mais c'est pas qu'ils ne s'engagent pas dans la politique, c'est plus qu'ils s'engagent d'une autre manière que par le jeu de vote de la démocratie actuelle, et qu'il y a aussi une perte de confiance dans la politique.
C'était Sarah Morel, animatrice permanente au MRJC de l'Ain.
Et Inès, quelles sont les propositions des candidats et candidates à la présidentielle en matière de jeunesse ?
Alors, plusieurs candidats veulent instaurer une aide financière pour les jeunes. Philippe Poutou veut créer un revenu d'autonomie pour les 16-25 ans de 1 800 € net. Jean-Luc Mélenchon veut donner 1 063 € aux jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents et instaurer un emploi spécifique jeune pour 5 ans dans le secteur non marchand et public. Fabien Roussel veut aussi une allocation mensuelle pour les jeunes. Anne Hidalgo veut donner 5 000 € à la majorité pour aider les jeunes dans leurs projets et créer un minimum jeunesse sous condition de ressources. Emmanuel Macron ne veut pas étendre le RSA aux 18-25 ans. Il veut faire une allocation de 200 à 500 euros sur 6 à 12 mois pour un jeune de 16 à 25 ans s'il suit un accompagnement ou une formation. Valérie Pécresse veut donner 670 euros par mois pour les jeunes qui acceptent de se former dans les métiers en tension. Elle veut enlever toutes les charges patronales pour les entreprises de moins de 10 salariés qui prennent un jeune en apprentissage. Yannick Jadot veut lui mettre en place un service public d'orientation avec les entreprises, les services publics et les collectivités. Marine Le Pen veut que les moins de 30 ans aient des avantages sans condition de ressources, comme une dotation à la création d'entreprises, une exonération d'impôts sur les sociétés et le revenu pendant 5 ans. Elle veut aussi créer un chèque formation pour les entreprises qui prennent un jeune en alternance. Nicolas Dupont-Aignan veut développer l'apprentissage, et c'est aussi le cas d'Éric Zemmour qui veut augmenter le niveau d'exonération salariale aux entreprises qui accueillent des apprentis. L'exonération serait maintenue en cas d'embauche de l'apprenti en CDI. Du côté de l'accès aux études supérieures, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Yannick Jadot veulent supprimer Parcoursup. Emmanuel Macron veut l'améliorer avec un meilleur accompagnement des familles. Et Éric Zemmour veut un baccalauréat plus exigeant et sélectif.
Merci Inès.
Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
Pousse ! En reportage avec Radio B.
Depuis la semaine dernière, les élèves et les formateurs du lycée professionnel Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse sont à pied d'œuvre pour aider les Ukrainiens.
Des tonnes de cartons remplis d'aide humanitaire donnée par les Indinois et les Indinoises leur ont été livrés pour être triés, étiquetés et pesés avant le grand départ pour le front. Le proviseur de l'établissement a lancé cette initiative humanitaire et les élèves et le personnel de l'école ont suivi. Ils sont un peu plus d'une cinquantaine en même temps, tous les jours, pour gérer ce stock de donations qui arrive des quatre coins du département.
Amine, c'est quoi ?
C'est des gâteaux.
Des gâteaux ?
Ouais, gâteaux pour enfants. Mais alimentation enfant. Ça y est ?
Moi c'est Anthony, je suis en organisation de transport.
Je suis en train de mettre les cartons homogènes avec les cartons pas homogènes. Ça veut dire que les cartons homogènes, c'est les trucs, les mêmes articles en gros. J'ai commencé mercredi. En plus d'ailleurs, pour le coup, je suis arrivé en retard. Du coup, j'ai vu plein de cartons. Je me suis dit, il se passe quoi ? Et après, on m'a expliqué et tout. Franchement, je trouve que c'est une bonne initiative, moi.
Tu te sens comment, toi, d'aider l'Ukraine et les Ukrainiens?
Pour le coup, en vrai, ça fait du bien, parce qu'on se dit, c'est pour aider, c'est pour des gens, limite, ils vont mourir et tout. Enfin, c'est même pas limite, il y en a qui meurent et tout. Ouais, c'est pour sauver la vie des gens. Du coup, c'est avec plaisir, en vrai.
Monsieur Calment, le proviseur du lycée Gabriel Voisin, est à l'origine de l'idée.
La protection civile a récupéré l'ensemble des dons, stocke tout dans un local à Léman. Ils sont aperçus qu'il y avait une grande quantité de dons. Donc du coup, il faut tout trier. Et on avait proposé, nous, au lycée, de proposer l'aide en transport. On a des camions, des routiers. L'aide en logistique, on peut organiser. On a du monde, on a de la main d'œuvre. Et l'aide aussi, on a un secteur hygiène, propreté, stérilisation, qui sont capables de trier des produits de santé.
Donc voilà. Là, ça représente combien de kilos de dons?
Alors, hier, on a évalué ce qui a été fait depuis lundi. On évaluait à 4 ou 5 tonnes qui ont été faites. Ça fait environ, on doit être environ 1000 cartons qui ont été faits. Ça fait beaucoup, oui.
Et c'est quoi les produits qui ressortent le plus?
Ce qui ressort le plus, on a des couches bébés, des produits de type gel douche, savon. On a beaucoup trié d'hygiène, donc c'est ces principaux produits qu'on va retrouver. Et sur la partie santé, on va retrouver des compresses, on va retrouver du matériel chirurgical, du Doliprane, du médicament de première urgence.
Et donc comment vous avez organisé tout ça? Est-ce que les élèves là, ils sortent de leur cours? Est-ce que ça fait partie de leur cours? Comment ça se passe?
Alors, on utilise toute l'idée, c'est d'avoir environ une cinquantaine d'élèves en permanence du lundi matin au vendredi soir. Donc très souvent pendant les cours, on a des élèves volontaires qui peuvent se rajouter, on a des élèves qui sont soit spécialistes en logistique qui viennent avec leur classe, c'est une forme de TP, soit des élèves qui viennent donner un coup de main parce qu'il y a besoin, on leur propose en dernière minute, ils viennent. Mercredi après-midi, il y en a qui sont venus en plus, il y a des professeurs des fois qui viennent sur leur temps libre. Donc il y a un peu de tout, voilà.
Je m'appelle Saïd Laman, je suis enseignant en économie gestion option transport logistique. On a traité tout ce qui a rapport avec l'hygiène. Et là, aujourd'hui, on va mettre en place un nouveau protocole pour traiter tout ce qui est secours.
Secours ?
Oui. On finit des fois la journée à 19h, 19h30. C'est de l'humanitaire, il ne faut pas compter son temps.
Alors, je suis M. Toabi Hakim, enseignant logistique transport dans la filière économie-gestion. On va chercher les colis à Le Mans. Les élèves, encadrés par les profs, ils vont aller à Le Mans. Et ils acheminent ici, on les prépare. On prépare les colis, on les trie par produit, on palettise. Ensuite, on les charge dans nos camions, des routiers. C'est les élèves qui les emmènent à Vinicieux. Et après, c'est acheminé vers l'Ukraine. Voilà.
Et donc, quel est votre rôle à vous ici?
Notre rôle, c'est de diriger les élèves, en fait, d'encadrer les élèves. C'est les élèves qui font tout le travail. Et c'est l'occasion pour eux de mettre en application les cours théoriques en logistique, en transport aussi et dans d'autres matières aussi. Et donc, les encadrer et puis mettre en application. C'est eux qui font tout, en fait. C'est les élèves qui font tout.
Inde
et Clara.
On est en train d'étiqueter des cartons triés.
Donc il y a quoi dans ces cartons?
Il y a des médicaments.
Du matériel médical. Des pansements, des antiseptiques, des médicaments. On note les cartons, comme ça on sait ce qu'il y a dedans. Et s'ils ont perdu un carton, au moins on a la liste pour savoir.
Sentez utile un peu?
Oui, ça aide au moins. On aide.
Au moins on se dit qu'on fait quelque chose, quoi.
Madame Sevoz, je suis le professeur de transport et logistique.
C'est très 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 compliqué la logistique du médicament parce qu'on ne peut pas tout jeter, on ne peut pas jeter comme on veut. Donc les élèves travaillent là-dessus et c'est super comme action. Et toutes les classes se sont mobilisées et c'est magnifique.
Tu t'appelles comment?
Sacha.
Donc Sacha, qu'est-ce que tu es en train de faire?
On est en train de trier tous les trucs en fait qu'on envoie en Ukraine. Et là, par exemple, je fais un carton de bandage, on fait des cartons pour les perfusions, les médicaments, les compresses, enfin tout ça. Donc on les trie et après on les donne aux profs pour qu'ils les scotchent et ils les envoient.
Ok, je te laisse travailler, merci.
Merci.
Monsieur Goudal, en fait, je suis professeur au lycée Gabriel Voisin dans la filière HPS, hygiène, propreté et stérilisation.
Donc c'est quoi l'enjeu ici de ce rangement pour que ça parte après dans les camions pour l'Ukraine?
Alors c'est vraiment de faire attention entre les différentes catégories pour qu'ils puissent avoir des équipements médicaux en fait qui correspondent à leurs besoins. Une compresse et pas un pansement, en fait, des choses comme ça. Voilà. Donc on fait un tri. Les médicaments qui sont donnés parfois ne sont pas les bons. disons, périmés, donc on fait attention à tout ça, en fait. Voilà.
Donc ce carton, par exemple, donc qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors dedans, ce carton, en fait, on a des kits de perfusion, donc ils vont servir, en fait, tout comme son nom l'indique, en fait, pour faire des perfusions, en fait, à des personnes qui, par exemple, auraient besoin, en fait, de sang, des choses comme ça. Donc ça va être, en fait, à nous de les mettre ensemble, de les reconditionner, fermer les cartons et après mettre sur palette, tout simplement, pour avoir des palettes, en fait, plus homogènes et qui puissent, en fait, eux, là-bas, directement, ne pas avoir à trier, ils ont d'autres choses à penser, et prendre un carton, ils savent ce qu'il y a dedans.
Qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte aux élèves de faire ça, d'aider un pays en guerre ?
Alors déjà, en fait, c'est pour qu'ils apprennent effectivement un peu la solidarité. Peut-être on a des élèves qui sont parfois un peu égoïstes, en fait, dans l'air du temps aujourd'hui. Ça leur permet, en fait, de développer, en fait, un peu d'empathie pour les autres, etc. Et d'aider, en fait, tout simplement. Et on voit là qu'ils sont bien motivés. Il n'y a pas de problème sur ça. Ils ont bien compris l'enjeu, en fait, et les personnes qui souffraient, qui avaient besoin, en fait, de tous ces dispositifs médicaux.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, dans les Assos parlent aux candidats, nous accueillerons France Nature Environnement de l'Ain et Autobus. Nous avons échangé sur la sauvegarde de l'environnement et la mobilité pour trouver des alternatives au tout voiture.
Et nous décortiquerons les propositions des candidats et candidates sur l'agriculture et notamment l'usage des pesticides. Alors à lundi prochain, 18h sur le 90FM.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.